Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Comics Weekly. Je suis Mister Honey Bunny.
Et je suis Steve.
Oh Steve. Steve, putain, ça fait super longtemps, dis donc. Je sais pas si t'as vu la semaine dernière, il y a au fait quelqu'un qui avait pris ta place pour faire la présentation.
Oui, quelqu'un que j'ai dégagé à coup de pied au cul.
Enfin, franchement, je sais pas qui c'était, mais franchement, ça se fait trop pas. Moi-même, ça m'a choqué, là. En tout cas, je suis content de te revoir, dis donc.
On part au travail, et voilà, il y a quelqu'un qui prend sa place, tout de suite.
Bah non, c'est quand même incroyable, quoi. Par le temps qui court, hein, faut vraiment être vigilant, maintenant.
En tout cas, je remercie beaucoup Claire d'avoir pris ma place et assuré le Comics Weekly, qui n'aurait pas eu lieu, du coup, comme on avait prévu, finalement, de ne pas avoir lieu, et bah finalement, voilà. Il a quand même eu lieu, ce qui est très bien. Ça fait trois fois que je dis finalement il a eu lieu, donc ça commence très très bien comme podcast, c'est magnifique.
Bah, c'est très très bien d'ailleurs.
Oui. Donc podcast, on va revenir un petit peu au classique. Quoique classique, non, ça va être encore un épisode assez particulier, puisque on a un programme ultra méga chargé avec 8 doubles reviews et 5 reviews solo chacun.
8 doubles reviews.
Non, cette fois-ci, on aura deux doubles reviews, parce qu'il y a deux grosses sorties.
Ah, tu m'as fait peur, j'ai cru que j'avais lu, j'avais oublié de lire plein de trucs, là. Ouh là là.
Non, deux doubles reviews, puisqu'on a deux grosses sorties cette semaine. Et, on pouvait pas passer à côté ni de l'une ni de l'autre. Quoique, pour l'une des deux, on aurait pu s'en passer, au final. Mais bon.
Oui, voilà.
On était professionnels, on fait notre job bien, donc on lit tout. Voilà. Même le pas bien.
Ouais.
Voilà. Et donc, du Marvel, du DC et du Icon. Bon, pas trop difficile à deviner ce que c'est, il n'y a qu'une sortie Icon cette semaine, donc voilà.
Ah bon ? Qu'est-ce que c'est ?
Je crois que celle-ci, tu aurais préféré l'oublier de ta mémoire. Ce qui ne veut rien dire comme phrase, l'oublier de ta mémoire. C'est...
Bon, on est en forme, hein, ça se voit. Hein. Ouais, on a dormi beaucoup d'ailleurs. Je pense qu'à nous deux, on a peut-être dormi une dizaine d'heures.
Une dizaine d'heures en trois jours, ouais.
À nous deux, oui.
Quelque chose comme ça.
un truc qui ressemble, quoi.
Donc... D'avance, pardon pour les fautes de français à l'oral, les oublis de noms et autres choses qui pourraient ponctuer ce podcast.
Voilà.
Non, c'est surtout parce qu'il y a quelqu'un qui a changé la chaise, elle est pas bien à sa place et voilà, ça me perturbe.
Ça doit être ça. À mon avis, c'est forcément ça.
j'ai l'excuse. Bon, allez, trêve de digression. On va commencer par les news, comme d'habitude. Et une news qui apparemment vient de tomber juste avant qu'on se mette à enregistrer. Et c'est toi qui as cette news, Bunny. Tu ne m'as encore rien dit, donc j'attends avec impatience de savoir ce que c'est.
Bleeding Cool vient d'annoncer que il y aurait un Old Man Logan numéro 2.
Et ben voilà.
L'année prochaine. Donc, par Mark Millar, bien sûr. Est-ce que ce sera Brian Hitch au dessin?
Non, c'était Steve McNiven.
Et ben voilà. Donc, si c'était Steve McNiven, est-ce que ce sera lui ou Brian Hitch ou quelqu'un d'autre? Et bien
rattrapé, très très bien rattrapé.
La question reste posée.
Voilà, donc il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que notre manque de sommeil commence à déconner.
Voilà. c'est plutôt moi une bonne nouvelle. Tu vois, je suis même content de revoir du Mark Millar et de pouvoir relire du Mark Millar.
Bah si c'est aussi bon que je me répète hein, pour ceux qui connaissent nos avis sur Old Man Logan qui suivent les podcasts depuis un petit moment, si c'est aussi bon que le début, ok. Si c'est aussi bon que la fin. Le dernier, le spécial Giant Size, là, ce sera sans moi.
Bah, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'il nous montre un peu plus de cette espèce de monde post-apocalyptique qui était vraiment pas mal. Je trouve qu'il y avait plein d'idées intéressantes et plein de clins d'œil super sympas.
Ah, de toute façon, moi, à l'époque, j'étais certain qu'on entendrait parler à nouveau de ce monde-là. Enfin, je veux dire, il a créé un monde de toutes pièces, un futur possible de toutes pièces, avec beaucoup de choses très intéressantes. C'était obligé, Marvel pouvait pas passer à côté de la poule aux œufs d'or et nous laisser de côté complètement cet univers.
Bon, par contre, il aurait pu faire, un truc, tu sais, un petit spin-off avec peut-être d'autres personnages se situant également dans ce monde, dans ce monde-là.
Ouais, mais au final, comme Wolverine n'est pas mort et a décidé de repartir un petit peu sur les routes, pourquoi pas ?
Ouais, effectivement.
Voilà, puis au moins, on est en terrain connu avec un personnage principal qui n'a pas forcément besoin de présenter, et notamment présenter son passé, donc ça permet de rentrer directement dans le vif de l'histoire.
En terrain connu, c'est surtout oui, enfin c'est ça dépend comment tu l'écris là sur Old Man Logan.
Les deux.
Voilà, les deux fonctionnent.
Ok, on passe à la suite des news. Tu as d'autres news Marvel, je crois.
Ouais.
Dont tu n'as pas voulu me parler avant l'enregistrement
pour me garder une surprise. Voilà, je garde mes news pour moi, monsieur, je ne partage pas tout. Fred Van Lente annonce qu'il va écrire un titre Avengers. Donc
encore. Voilà.
On ne sait pas exactement quand ni qu'est-ce que c'est également, mais voilà, c'est sur Twitter en fait qu'il a lancé cette info.
Est-ce qu'on sait si c'est une mini, une régulière ou pas du tout?
On ne sait rien du tout.
Le problème, c'est que, enfin, j'ai rien contre Fred Van Hunty, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, les titres Avengers, il va falloir arrêter, quoi. Parce qu'il y en a déjà 15 par mois, et j'exagère à peine. Donc, un de plus, c'est bon, quoi. On n'est pas des
Bah,
vaches
il
à
est
lait non
déjà
plus.
sur Iron Man Legacy, donc est-ce qu'on va voir
Ouais,
Avengers
super.
Legacy, un truc comme ça? Je ne sais
Su
pas.
super. Ouais. Quelle qualité en plus.
Il paraît que c'est pas terrible, terrible.
Non, c'est pas bon. Moi, ça me plaît pas du tout, du tout. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en a jamais parlé ici.
C'est vrai, c'est vrai, on n'en a pas parlé. On continue?
Tu avais autre chose, je crois? Tu en avais une troisième et dernière?
Une troisième et dernière, ouais.
Que
Tu
tu
te
ne m'as pas
rappelles que...
dit, surtout.
Si, enfin. Tu te rappelles que Marvel Man avait été racheté par Marvel justement il y
Ah
a un an déjà,
oui. Marvel Man ou
lors
Miracle
de...
Man, suivant la période.
Voilà. Et donc il va enfin y avoir un Marvel Man qui va sortir, le Marvel Man Classic Primer, au fait inspiré d'une pin-up de Jay Lee.
D'accord.
Et bon, bah pour le moment on n'a pas plus d'informations, quoi. Tout ce qu'on sait, c'est que ça arrive bientôt. Et que on va enfin pouvoir lire du Marvel Man puisque c'était un petit peu le cocorico au début
Ouais.
et finalement plus rien quoi pendant des mois.
Moi, ce qui me fait rire, enfin, tout le monde va me trouver un peu grognon peut-être, mais c'est peut-être parce que j'ai pas assez dormi. Mais franchement, dans le genre, on fait une idée avec rien du tout, maintenant on s'inspire carrément d'un pin-up pour faire une histoire. Ah ouais. Putain, ils ont plus de créatif chez Marvel ou quoi?
Oui, je sais pas, oui. Non mais enfin
Non
voilà,
mais enfin
c'est...
voilà quoi, on part d'un. Enfin bon, ça sera peut-être très bien, enfin c'est difficile de juger tant qu'on n'a pas vu le truc, mais je veux dire l'idée de base, partir d'une pin-up juste pour faire une histoire, ça me paraît un petit peu léger quoi.
Pour le moment, Marvel Man, personnellement, je m'en fous totalement.
Moi c'est clair.
Mais bon, faut voir, hein, sans doute, ce sera la meilleure série Marvel
Bah
ces prochains mois.
il faut bien remplacer The Sentry, quand même. Fallait bien un personnage surpuissant.
Ouais, mais alors je sais pas s'il va s'immiscer dans la continuité normale, quoi, entre
Je sais
guillemets,
pas.
mais
On
je sais
verra.
pas.
On verra. Bien, on va aller voir un petit peu de l'autre côté de la rue avec DC.
Voilà, c'est exactement ça, ouais, c'est de l'autre côté de la rue.
DC qui annonce tout un tas de sold out. C'est vrai que généralement on parle souvent de Marvel et de tous ces numéros sold out. Beaucoup moins de DC, peut-être parce qu'ils font moins de sold out en général, ou peut-être qu'ils sont plus discrets sur les sold out, parce qu'il y a quand même des deuxièmes éditions, etc., qui existent. Et là, ils ont annoncé tout un tas de sold out. Alors attention, une très très longue liste. Wonder Woman 600, Action Comics 890, Batman Beyond numéro 1, Return of Bruce Wayne 1 et 2, Birds of Prey numéro 1, Flash numéro 1, Green Arrow numéro 1, Generation Lost numéro 1, Legion of Super Heroes numéro 1, Zatanna numéro 1 et Superman Batman Annual numéro 4. Ça en fait un paquet de sold out. Donc les comics DC se vendent vraiment bien. Est-ce parce que de l'autre côté, il y a un peu moins de qualité, que les gens s'en foutent à Prestige? Je sais pas, je peux que
Bah,
émettre quelques hypothèses.
en tout cas, les titres que tu as cités, c'est plutôt des titres bons, quoi, sympas.
Ah bah dans l'ensemble, j'ai pas tout lu, hein. Notamment Return of Bruce Wayne ne m'intéresse pas du tout parce que bah enfin les gens savent maintenant ce que je pense du Batman de Grant Morrison, donc voilà, ça m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que je vais pas le lire. Mais tous les autres, je les ai quasiment tous lus et ils étaient tous très bons. Donc ouais, moi je trouve que c'est mérité. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de nouveaux lecteurs ou est-ce que c'est parce que Marvel perd des parts de marché? Il faudrait regarder les chiffres, mais on les aura d'ici 1 ou 2 mois, donc on verra bien à ce moment-là, quoi.
Bah en tout cas, bonne nouvelle, quoi, puisque comme tu disais, ils ont pas l'habitude de communiquer là-dessus, donc
Bah rarement, en tout cas,
c'est...
ils en parlent, mais c'est pas souvent qu'on en entend beaucoup comme ça des sold out.
Bon, c'est plutôt bon signe, en tout cas.
En tout cas, ils s'occupent de faire des réimpressions qui vont arriver très prochainement. Ils sont déjà dessus pour ceux qui les auraient ratés et qui voudraient les avoir. On passe à autre chose chez DC. Ils annoncent une ligne Super Pets.
Oui, Super Pets. Alors en français, traduit Steve, hein, pour les non-anglophones.
Super animaux de compagnie.
Voilà, oui, parce qu'en français, ça le fait pas. Pour ceux qui comprennent
Donc,
pas l'anglais.
ouais. Avec, bah là, bah, je te laisse en parler un petit peu, peut-être.
Oh bah, non, vas-y.
D'accord, sympa. Ce serait donc prévu pour sortir à partir de janvier 2011 jusqu'à décembre 2012 et il y aurait 24 titres à sortir. Alors, on imagine que ça doit être des one-shots parce que 24 séries régulières, ça me paraît gros, surtout que c'est une ligne pour
Oui,
DC
non, ça
Kids.
c'est pas possible.
Les enfants déjà n'ont pas d'argent, c'est les parents qui achètent et ça me paraît énorme, 24 nouveaux titres réguliers. Même déjà 24 mini, ça me paraît énorme.
Non mais
Donc,
déjà, faut les écrire aussi, surtout, faut les
ben,
dessiner, donc c'est pas possible.
au scénario et au dessin, on retrouvera assez souvent Art Balthazar qu'on voit passer sur Tiny Titans, donc ça reste vraiment dans la ligne DC Kids actuelle. Et donc sur ces super pets, on a 6, donc je pense que c'est des one-shots, c'est pour ça que je vais dire 6 one-shots d'annoncés, avec des noms tous plus rocambolesques les uns que les autres, comme The Fastest Pet on Earth, qui est sûrement un dérivé de Flash, hein, bien sûr. On a, j'arrive même pas à me relire, c'est beau, Heroes of High Seas, qui doit être un truc d'Aquaman, sûrement un hippocampe ou quelque chose comme ça.
Moi j'aime beaucoup le Midway Monkey Madness.
Voilà. Oui, par exemple. Enfin voilà, on en a 6 d'annoncés et il y en aura d'autres à venir, puisqu'il y en aura 24 en tout. Bon, ça peut être sympathique. Est-ce que c'est une petite réponse de DC à la ligne Pet Avengers qu'a lancé Marvel il y a quelques mois, qui est d'ailleurs, je trouve, très très bonne, hein, comme ligne.
Oui, qui est très drôle, qui est très drôle. Si on a l'occasion, sans doute on va en parler un jour dans Comics Weekly, s'il y a des nouvelles sorties là-dessus.
Ouais. Et qu'il n'y a rien d'autre de très très important surtout.
Oui, voilà. Voilà.
C'est toujours le même problème. Bah, on va retourner un petit peu chez Marvel.
D'ailleurs, voilà.
Maintenant, avec deux nouveaux teasers pour Generation of Hope. Donc qui se passe post Second Coming avec à partir de Uncanny X-Men numéro 526.
Oui, puis c'est en fait Generation of Hope, comme tu le disais, est écrit un petit peu à la Generation X.
Oui, moi c'est ce qui me fait un peu peur.
Donc qu'est-ce que c'est et qui sont ces gens d'ailleurs, puisque j'en reconnais aucun finalement.
Moi non plus. Là, dans les deux nouveaux teasers, on a un mec qui est, on dirait qu'il bouge très vite ou qu'il vibre, donc il est légèrement flou. Et on a un autre gars complètement difforme.
Ouais, une espèce de cyborg tout vieillot.
Ah, moi j'aurais dit limite une sorte de vampire ou quelque chose. Ah, tu vois, enfin c'est, on n'a pas la même vision des choses, mais c'est marrant. Mais
il y en a un aussi dans les teasers qui ressemble un petit peu à Victor Creed, ou en tout cas à quelqu'un de sa famille, puisqu'il a des cheveux longs et des dents pointues, un petit peu, le Victor Creed du film, quoi.
Mais moi, ce qui me fait le plus peur avec ces teasers, c'est quand on les met côte à côte.
Ah, sa forme, enfin il y a des flammes derrière chaque personnage, mais on a l'impression que ça forme un phénix.
Ah bah c'est pas qu'une impression, ça forme totalement le phénix. Ça. Donc moi ça franchement.
Un rapport avec Hope tout simplement.
Ça a coupé.
Parce que New Generation of Hope et on te fout un phénix derrière et Hope étant la descendante de phénix. Est-ce que c'est pas tout simplement ça, de toute façon?
Bah ouais, moi c'est ce qui me fait un peu peur. Enfin, je sais pas, je suis très mitigé. En tout cas, bon, c'est toujours écrit par Matt Fraction, et c'est au dessin Wiles Portacio, qui revient sur Uncanny X-Men après le retour de Kitty Pryde.
Bon, avec Matt Fraction, on n'est pas non plus à l'abri d'une bonne surprise, quand même. Hein. Il est pas, c'est pas un manchot,
oui, bah,
mais...
On verra, non, moi c'est juste que ça me fait un peu peur, quoi. Le concept Generation X, voilà... Même si j'aimais beaucoup cette série à l'époque, on a eu tellement de séries de jeunes mutants. Là, il y en a encore une qui s'est arrêtée il y a maintenant un peu plus d'un an, Young X-Men. Ça s'est arrêté parce que ça marchait pas. Est-ce vraiment la peine d'essayer de relancer un concept de jeune équipe?
Ouais.
On verra si c'est ça, parce que ça se trouve, c'est peut-être même pas ça du tout.
Bah là, ça fait pas vieille, ça fait plutôt vieille équipe, là. Équipe maison de retraite, même, si on en croit les teasers.
On verra bien. Bref. On verra bien. Dernière news chez Marvel pour cette semaine. Shadowland, dont on va parler tout à l'heure, a eu une petite vidéo de promotion diffusée sur le site de Marvel et puis reprise sur YouTube et un peu partout. On mettra le lien pour la vidéo dans les news, vous puissiez la voir. Une petite vidéo donc promotion de 3 minutes quand même, qui présente des images de Shadowland, des images légèrement animées en fait, façon un petit peu motion comics.
Un petit peu ce qu'on avait eu sur Secret Invasion.
Par exemple,
début.
Ouais. Voilà. Et donc avec un morceau de rap metal, je dirais, même si le metal ça en a que le nom, hein,
oui.
Qui s'appelle Take a Stand, et qui apparemment serait écrit uniquement pour ça.
Ouais.
Donc j'ai pas noté les noms des personnes, parce qu'il y en a beaucoup qui chantent le morceau. Donc. Allez-y, vous pouvez regarder, c'est vraiment sympathique. On voit pas grand chose de plus que ce qu'on avait vu avant. On voit des images du comic, pas mal. Donc si vous voulez vraiment éviter tous les spoilers, ne la regardez pas, c'est clair et net.
Oui, puisque voilà, en fait ça montre quasiment en fait ils avaient tellement d'images de teaser que ça leur a servi à faire un clip. Tellement ils en avaient.
Ouais, c'est clair. Bon, ils ont aussi pris des images du numéro 1 d'ailleurs dedans, il y en a pas mal.
Ouais, en plus, c'est vrai.
De toute façon, Shadowland, on en reparle tout à l'heure dans une des doubles reviews. Pour terminer, on retraverse à nouveau la rue chez DC. Et Action Comics numéro 894, toujours écrit par Paul Cornell puisqu'il a repris le titre, et avec Lex Luthor en personnage principal, dont tu nous as parlé la semaine dernière d'ailleurs, Benny.
Oui, très bon.
Pour le numéro 890, oui, très très bon aussi, j'ai eu le temps de le lire depuis, j'ai adoré.
Ouais.
Lex Luthor va recevoir la visite d'un personnage pour le moins étrange, qu'on ne s'attendait pas du tout à voir déjà chez DC, et encore moins dans une série Superman. C'est la visite de Death,
Oui,
de
de Death.
Sandman.
Oui, Death, la fille, enfin, la fille, quoi.
Oui, donc une des sept Endless, la sœur de Sandman, quoi.
Voilà.
Voilà. Donc Death qui fait un tour dans le DC Universe. Enfin, je sais pas, faut voir ce que ça va donner, mais ça peut être intéressant.
Surtout un duel face à Luthor, ça peut être marrant.
En plus, pourquoi elle vient voir Luthor, ça?
Ils vont peut-être démarrer une idylle. T'imagines? Le couple de l'année, Lex Luthor et Death.
En tout cas, de ce que j'ai lu, Paul Cornell a demandé l'autorisation à Neil Gaiman, puisque le personnage lui appartient, et Neil Gaiman a été emballé par l'idée et lui a donné tout son aval. Donc voilà, ça sera normalement pas renier le personnage de Death et ce qu'on a vu dans Sandman et les mini-séries sur Death notamment.
D'accord, bah, très bien.
Donc déjà, c'est une très bonne chose. Ce numéro arrivera en octobre.
Nickel.
Voilà. Et dernière news de DC, et puis dernière news tout court de cette semaine, et je te laisse l'annoncer.
Donc Jimmy Palmiotti annonce qu'il va faire une série Freedom Fighters. Freedom Fighters, tu sais, c'est cette équipe avec l'oncle Sam.
Oui.
Et ça démarrera donc en décembre, donc on a le temps encore de voir venir.
Jimmy Palmiotti tout seul d'ailleurs, cette fois-ci, je crois.
Oui, voilà, il est plus avec son comparse comme sur Jonah Hex.
Ouais,
Donc...
Justin Gray ou sur Power Girl aussi, où ils étaient tous les deux. Ça fait un bail qu'on l'avait pas vu tous les deux, qu'on l'avait pas vu tout seul en fait. Ça.
Ah bah non, c'est un check-it.
Wouhou!
Voilà, c'était la super blague Comics Weekly de la semaine. J'espère que
Voilà.
vous avez apprécié. C'est pas du tout préparé en plus.
Magnifique en tout cas. Oui, bah de toute façon, oui, pour moi, ce sera un check-it en tout cas. Mais au moins pour voir ce que ça donne. Ok, bon bah c'est sur cette blague qu'on va peut-être arrêter les news, même pas peut-être, sûrement d'ailleurs. Et on va attaquer la première double review de la semaine. C'est le X-Men volume 3 numéro 1. Au scénario, Victor Guichler, au dessin, Paco Medina et à l'ancrage, Juan Velasco. Donc, Curse of the Mutants débute après le Death of Dracula de la semaine dernière. Que j'ai lu aussi d'ailleurs
Ouais.
après avoir écouté la review solo de Claire, je l'ai lu et franchement très très bon épisode.
D'accord, et ce X-Men numéro 1, alors pour toi, c'est digne d'un numéro à
Et ben
ressortir.
j'ai préféré et nettement le Death of Dracula. C'est-à-dire que pour moi, ce X-Men volume 3, c'est du vent.
Oui, bah d'ailleurs, ça commence pas sur un coup de vent, ça commence
Sur une explosion.
oui, sur une explosion. En fait, bon alors, c'est peut-être le seul passage sympa d'ailleurs. J'ai trouvé ça un peu marrant. En fait, il y a une espèce de personnage tout habillé de cuir assez bizarre qui débarque.
Un peu façon la crampe dans Pulp Fiction, quoi.
Voilà, et qui débarque en plein milieu d'un café dans lequel il y a entre autres Pixie et Jubilé surtout. Il commence à retirer des fringues et il explose quoi. Il explose en morceaux.
Et surtout,
et donc
ouais, voilà, avec son sang qui
voilà,
se
on sent
jette.
qu'il gicle partout et qui bien sûr, en fait, comme le mec explose, et ben le sang s'incruste dans les plaies des victimes, quoi. Dont Jubilé, qui se trouve juste à côté de ce mec-là. Et ben, on se rend vite compte qu'au fait, c'était une espèce d'attentat suicide visant à propager une espèce de virus vampire.
Bah, au début, même les X-Men pensent peut-être que c'est Al-Qaïda ou ce genre de choses. Donc il y a un lien avec l'actualité. Ça, bon, moi j'ai trouvé ça sympathique.
Bah, moi
Bon.
j'ai surtout vu un lien avec ce qui se passait dans X-Force récemment là. Tu sais, les faire exploser des mutants.
Ouais, mais enfin c'était dans la VF, donc il y a plus d'un an maintenant, enfin il y a à peu près un
Oui,
an
enfin ouais,
aux
enfin bon,
États-Unis, quoi.
au rythme des histoires, c'était il n'y a pas si longtemps, puisque c'était juste avant Utopia. Bon. Mais enfin bon, cette première scène, on va dire, est un peu sympa. Enfin, ça fait penser à du Blade, mais bon, j'ai trouvé ça relativement cool, ce moyen de transmettre le virus. Mais alors après, en fait, ça se résume à bah voilà quoi. Ils observent Jubilé, ils se rendent compte que elle a quelque chose. Et puis, grosso modo, on voit une autre. Alors attends, c'est qui c'est d'ailleurs Steve qui a été touché. Comment s'appelle-t-elle déjà?
Ah, je me rappelle plus, mais c'est
Lisa,
pas.
Lisa.
Oui, enfin, c'est pas quelqu'un de connu, je crois pas.
Non, voilà, oui, c'est pour ça que je me souvenais plus, mais il y a une autre nana qui a été touchée aussi par cette explosion. Et bah, on assiste à sa transformation. Enfin, sa transformation. À son. Enfin, voilà, quoi. Elle rejoint l'espèce de vampire chef, là.
Ouais, bah voilà, enfin. Honnêtement, le problème, c'est que la scène de l'explosion, tout ça, on avait vu ça dans le preview. Donc, hormis cette scène-là, le reste, c'est lent. Déjà, c'est super lent. Après
il
ce premier épisode,
rien.
il s'est rien passé. Les X-Men commencent à enquêter, ils s'aperçoivent que c'est des vampires, et de toute façon, d'un côté, Wolverine avait trouvé, puisqu'il est parti en reconnaissance avec Pixie, je crois. Et ils découvrent une salle où il y a plein de corps partout, ils savent qu'ils ont affaire à des vampires. Et de l'autre côté, le scientifique, pareil, dont j'ai totalement oublié le nom, le mec avec le chapeau là, qui fait partie du club des scientifiques des X-Men.
Oui, c'est pas Nemesis ou quelque chose comme ça.
Oui, ça va être ça. Voilà. A lui aussi découvert que Jubilee était infecté et que c'était en fait une espèce de virus vampire et qu'elle allait se transformer progressivement. Honnêtement, il y a rien. En plus, l'épisode fait 22 pages. Voilà, j'ai tendance à préférer comme les numéros 1 double. Là, c'est un numéro simple, ça m'embête un peu.
Bon, puis surtout, le problème, c'est qu'on nous annonce que ça va durer 18 mois. Alors, si c'est 18 mois comme ça, aussi passionnant.
Ouais. Je trouve que Gishler avait fait vraiment un meilleur job sur Death of Dracula. C'était vachement plus intéressant, on s'attachait tout de suite au personnage. C'était vraiment très très bon. Et là, il n'y a rien.
Il n'y a rien parce que pour moi, c'est une erreur de mêler X-Men et vampire. Déjà, si on veut lire du vampire, à la rigueur, on peut lire du Blade. Et pour qui, comme moi, s'en fout un petit peu de Blade et des vampires, voilà quoi. Pourquoi serait-il plus intéressé d'en lire dans X-Men que ailleurs? Surtout que là, c'est vraiment une histoire de Blade, en fait.
Mais le pire, c'est que moi, ça me rappelle énormément l'annuel fin de 1998 de Gen X, et où il se battait contre Dracula, en fait.
D'accord.
Et c'était Page, cette fois-ci, qui était infecté par Dracula, et Chamber sauvait la situation. Là, la différence, ouais, c'est que c'est Jubilee qui est infecté.
Et puis la différence, c'est que c'était juste dans un annual, et là, ça va durer très très longtemps, apparemment.
Et que là, c'est pas Dracula. Moi, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est un check-it. Si vraiment, vraiment, vous aimez tout ce qui est X-Men, et que vous voulez pas passer à côté d'un nouveau numéro 1 qui se revendra peut-être des dizaines de dollars d'ici 10 ans.
Franchement, je pense pas.
Mais j'y crois pas une seconde.
Ouais, parce que franchement, c'est vraiment pas terrible.
Moi, mon sentiment, honnêtement, c'est un pass. Attendez le numéro 2, parce que de toute façon, vous avez tout vu avec la preview.
Exactement, ouais. Ah oui, très très décevant, très très décevant. Ouais. Et puis encore une fois, on pouvait espérer que les X-Men allaient avec un nouveau numéro 1 vraiment prendre une nouvelle direction, mais les X-Men contre les vampires, on s'en fout en réalité. Ce qu'on veut voir, c'est des résolutions sur les problèmes mutants. Ouais. Donc ce qui se passe dans Legacy ou ce qui se passe dans la suite directe de Second Coming, ce sera peut-être plus passionnant que ça. Quoi.
Justement, j'allais y venir, c'est que en plus on ne sent pas du tout Second Coming.
Non, pas du tout. Oui, bah oui, puisque moi je l'ai pas lu.
C'est limite, moi non plus je l'ai pas lu en fait encore. Donc, et c'est limite hors continuité, quoi.
C'est inquiétant parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait, on se rend compte que rien n'a changé.
Bah finalement, c'est pas plus mal puisque je l'ai pas lu, je suis pas spoilé.
Oui, d'accord.
Enfin,
mais bon,
je suis pas spoilé,
c'est quand même
si,
inquiétant.
Sais,
on se dit finalement les X-Men ne se sont toujours pas renouvelés, il s'est rien passé de passionnant. Donc je sais pas, non mais en fait en même temps à la fin on voit une preview de ce qui va se passer dans une canne X-Men et ça a l'air plus passionnant. Avec une saga d'ailleurs, on peut l'annoncer, hein. The Five Lights. Ouais. Donc les 5 lumières, quoi. Les 5 lumières. Ça va démarrer dans Uncanny X-Men 526.
Ben voilà, New Generation of Hope.
Et on nous fait aussi un petit teaser de Fall of the New Mutants. Déjà, ça a l'air plus passionnant que tout Curse of the Mutants. Et Curse of the Mutants en plus, alors là, on va en bouffer dans Blade, ce qui est normal. Dans Namor aussi, dans Storm et Gambit, et dans X-Men vs Vampires. Comme si ça suffisait pas, cette série, il va aussi y avoir une série X-Men vs Vampire.
Mais je crois que ça va être une mini. Hein.
Oui, mais enfin quand même, quoi. Ouais. Est-ce besoin d'en rajouter?
En tout cas, autant Death of Dracula m'avait vendu le truc que là, ça m'a refroidi direct.
Ouais.
Donc si vous n'avez pas lu Death of Dracula, moi je vous conseille fortement de le faire, au même titre que Claire l'avait fait la semaine dernière. C'est vraiment, vraiment pour moi un bail. C'est vraiment très très bon et là, Gitchler a amené des personnages où on s'attache assez vite à eux finalement, alors qu'on ne les connaît pas du tout. Autant là, c'est des personnages qu'on connaît, on devrait s'attacher à eux, et ils sont plats et sans saveur.
Bon bah écoute, pour moi c'est un pass, de toute façon.
Pour moi c'est un pass aussi, c'est vraiment un check-it pour les gros fanas de tout l'univers mutant. Mais vous risquez péril. Bien, on va pas rester là-dessus plus longtemps, on passe aux premières reviews solo, et c'est moi qui commence cette semaine, avec Brightest Day, The Atom Special. Scénario de Jeff Lemire, dessin de Mahmoud Asrar, et ancrage de John Dell. Alors, pour resituer un petit peu, Ryan Choi, le deuxième atome qui avait pris la place d'atome une fois qu'il de Atom Ray Palmer, le premier atome du nom quand il était mort, a été tué dans le Titans Villains for Hire spécial qui est sorti il y a un mois ou deux, je ne sais plus trop, juste avant en fait le changement de direction du magazine Titans,
D'accord, ok.
où c'est Destro qui reprenait, etc. Leur première mission, ça avait été de tuer Ryan Cherry. Pourquoi? Parce que Ray Palmer va revenir sur le devant de la scène et avoir deux personnages Atom, ça le faisait pas. Déjà qu'Atom tout seul, ça vend pas beaucoup. Alors en plus avec deux personnages, voilà.
Oui, puis en même temps, ça permettait de donner plus d'impact à l'arrivée de cette nouvelle version des Titans, du coup.
Oui, voilà, en plus.
En plus.
Donc, Ray Palmer est de retour aux affaires, il a repris le costume d'Atom, et en fait cet épisode n'est ni plus ni moins qu'un gros retour sur ses origines depuis le départ, mais c'est franchement super bien fait. C'est-à-dire qu'en même temps, on a l'histoire principale, où Atom, son labo en fait, a été cambriolé,
Ouais.
et il essaye de comprendre qui, pourquoi, et il se rend compte que l'intervention qu'il a faite en début de nuit, où il y avait des gens qui avaient pris d'assaut une bibliothèque et pris un otage à l'intérieur, déjà ça lui paraissait bizarre, mais qu'en fait c'était simplement un moyen de lui détourner son attention pour qu'on puisse voler toutes ses notes dans son labo. Et il se demande un petit peu ce que les gens vont faire avec ses notes. Et puis il y a un scientifique, les fans d'Atom le reconnaîtront, c'est un personnage, c'était son professeur à l'université,
Oui.
qui est un des seuls, à part les super-héros, à connaître son identité secrète. Qui vient discuter avec lui, etc. Et au fur et à mesure, ils racontent tous les deux les origines d'Atom. C'est franchement super bien mené. On passe du présent au flashback sans que ce soit trop sec ni trop forcé. Et le tout se lit vraiment bien. Et franchement, Jeff Lemire est un putain de bon scénariste. Pour moi, enfin, c'est la première fois que je lis du super-héros vraiment par Jeff Lemire. Alors, faudra voir s'il confirme ou pas. Mais en tout cas, il y a un ton dans son comic. Pour moi, c'est le nouveau Geoff Jones.
Oh, d'accord, carrément.
Ah ouais, franchement, il a le même style, la même approche, pouvoir nous attacher à des personnages qui sont pas forcément des grandes têtes d'affiche. Je veux dire, Diatome, c'est pas non plus le gros personnage que tout le monde connaît.
Oui, puis en plus, c'est un numéro qui permet justement de le connaître
Voilà.
totalement.
Non seulement on a des origines, on en connaît plus sur le personnage, mais en plus, il nous place des intrigues. Pour la future série Atom. Alors, ce sera pas une série à proprement parler. Atom va être en co-feature dans Adventure Comics, pardon. Donc,
Ok.
à partir du numéro 516 qui sort d'ici quelques semaines, là. Je sais pas si c'est pas la semaine prochaine ou dans 2 semaines.
D'accord.
Donc, ce sera en backup et ce sera toujours écrit par Jeff Lemire. Et là, franchement, alors non seulement on avait Paul Levitz dans la première partie sur Adventure Comics qui revient un petit peu sur les origines de la Légion, etc. Et en co-feature, on a Atom écrit par Jeff Lemire. Pour moi, ce sera définitivement un bail, cette série. Il n'y a pas de doute.
D'accord, très
Donc,
bien. Bah
franchement,
écoute.
Jeff Lemire sur du super-héros, j'attends de voir s'il confirme, et puis j'attends avec grande impatience son Superboy.
Oui,
Mais pour moi, s'il continue dans cette voie-là, ça pourrait être le nouveau Geoff Jones.
Alors on va voir justement s'il a autant d'inspiration et d'idées, parce que Jeff Jones est très prolixe aussi,
Ouais,
mon
très
fils.
prolixe, mais c'est vraiment un auteur que j'aime de plus en plus, Jeff Lemire, et j'ai presque lu tout ce qu'il a fait maintenant, et... C'est vraiment quelqu'un de très 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 bon. Voilà. Donc pour moi, c'est un bail.
Ok.
On passe à ta double review. À ta review solo. Oh là là, j'ai du mal. Ta
À la
review
peau.
solo, Benny, avec.
Le Batman et Robin numéro 13. Donc au scénario, on retrouve Grant Morrison et au dessin, cette fois-ci, c'est Fraser Irving.
Un vieux de
Alors
la
bon,
vieille, lui, quand même, hein.
ouais, alors Fraser Irving, dont le style, je le dis tout de suite, enfin c'est pas mon style, quoi, justement. Je n'aime pas tellement. Je trouve ça un peu trop bizarre à mon goût. Enfin voilà, c'est pas moche, mais ça donne un style tellement particulier qu'on dirait un épisode un petit peu, tu sais, dindé, quoi.
D'accord.
D'ailleurs, son Joker, entre parenthèses, est vachement inspiré au fait de l'image d'un mec. Alors je sais plus comment il s'appelait. C'est un acteur, je crois, qui avait inspiré la, au fait la, le, bah, le, les créateurs du personnage du Joker, quoi.
Oui, voilà. Et alors, c'est le jour où je suis hyper fatigué et que j'ai plus de mémoire qui me demande ça.
Voilà, et ben c'est pas grave. Enfin, toujours est-il que c'est vraiment, y a vraiment une case, la première, on voit sa tête, c'est vraiment, on a l'impression que c'est l'image calquée, quoi. Décalquée, je devrais dire plutôt.
D'accord.
Décalquée, et ça m'a limite perturbé parce que j'ai vraiment l'impression que Fraser Irving a pris sa feuille de calque et a fait un vieux calque comme on faisait en sixième
C'est
sur
pas
l'anatomie du mec.
gentil, oh, c'est pas
Non, mais
gentil.
regardez la première image du Joker dans cet épisode et vous allez voir, si vous retrouvez l'image dont je parle sur le net, et ben c'est frappant quand même. Donc on démarre sur un truc qui m'a un peu saoulé, c'est-à-dire que c'est le retour de Dr. Hurts, qui se la pète toujours père de Bruce, donc Thomas Wayne, et on voit une espèce de, tu sais, de truc alternatif où il y a encore la mort des parents de Bruce, sauf que là, il y a juste sa mère, en fait, qui meurt, et le père est tout content, il paye même le mec qui a tiré dessus, et... Enfin voilà, donc ça doit être un gros délire dans la tête du Dr. Hurts, que je trouve un peu inutile puisque maintenant c'est un peu éventé puisqu'on sait que le Dr. Hurts c'est pas le père de Bruce. Donc que Morrison essaye de nous remettre ça sur le tapis, c'est un peu lourd quoi. Enfin voilà quoi, moi franchement c'est vraiment pas un personnage que j'aime bien. Et ça commence sur une vision apocalyptique du futur puisque grosso modo au fait on voit le Dr. Hurts abattre Dick Grayson d'une balle dans la tête. Et ouais. Après, on enchaîne sur 3 jours avant, donc 3 days earlier pour les anglophones. Voilà, t'as vu, c'est bien. Donc Batman et Robin, donc au fait, Dick Grayson et
Damien.
Et Damien, voilà. Chope le Joker, arrête le Joker. Et grosso modo, bon, c'est un épisode qui met en scène deux choses, une enquête avec le commissaire Gordon et Batman Dick Grayson. Donc c'est assez intéressant en fait, il y a une espèce de bonne alchimie qui se met en place entre le commissaire Gordon et Dick Grayson, ce qui est assez original de les voir bosser ensemble puisque avant il avait souvent affaire à Batman quoi, à Bruce Wayne. Et on voit que il est bien plus à l'aise d'ailleurs avec cette version de Batman, le commissaire Gordon. Et c'est aussi assez plaisant de le revoir en action. Donc là c'est plutôt un bon passage. Et il y a une confrontation entre le Joker et Damian qui est assez jubilatoire. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Donc l'épisode dans son ensemble est assez sympa. Moi ce qui me fait peur c'est le début et les prémices de ce qui est annoncé me fait un peu peur. C'est du Morrison donc j'imagine que de toute façon au final ce sera pas du tout ce qu'on voit au début, ce qui se passera.
C'est en 3 parties hein, je crois.
Ouais, c'est en 3 parties, c'est un arc en 3 parties. Enfin voilà, bon, c'est sympathique, c'est pas trop alambiqué, ça part pas dans tous les sens. Morrison est quand même bien plus posé sur Batman et Robin qu'il l'est sur Batman en général. Donc on peut prendre ce titre et comprendre ce qui s'y passe sans trop de problèmes.
Hein. Même si on n'a pas lu Batman et Robin avant.
Voilà, en plus, ouais. Ouais. Donc ça, c'est bien. Il y a juste l'allusion au défunt. Il y a le Dr. Hurts au début, etc., quoi. Donc, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe?
Enfin, mais... quand je veux dire, si on n'a pas lu la série Batman et Robin, si on n'a pas lu les 12 premiers, on peut prendre celui-ci.
Tout à fait, puisque je n'ai pas lu quasiment, enfin, j'ai lu les deux premiers, quoi, de Batman et Robin depuis le début. Donc, voilà. Donc, j'attends qu'ils sortent en français pour les lire. Donc, un numéro sympa, on va dire, un check-it pour ceux qui voudrait prendre le train en marche, et puis un bail pour les fans habituels de Morrison et de son Batman quoi.
Ouais, c'est marrant parce que au début moi tu connais ma position sur Batman et Morrison. Ce que tu as raconté au début avec Dr. Hurts, déjà tout de suite c'était clair dans ma tête, j'avais même pas envie d'aller voir, mais ce que tu as raconté ensuite m'a quand même donné envie d'aller voir.
Les 3/4 de l'épisode sont franchement intéressants et pas mal du tout. Il y a vraiment de bons dialogues, il y a de bonnes scènes. Voilà, c'est juste l'intrigue du début qui me fait un peu peur. Et là, c'est surtout, ils sont surtout face au Joker, quoi, en fait, qui est pas mal. En fait, Morrison le tient bien et c'est assez intéressant puisque Morrison, hormis dans Batman Rip, n'a pas encore trop écrit le Joker finalement.
Ouais, c'est vrai.
Donc, check it ou buy selon.
Rip et puis le numéro 700 aussi, où le Joker était quand même un des vilains principaux.
C'est vrai, ouais. Enfin, c'était une version
bizarre, c'est vrai. Mais... Ok, on va passer à la seconde double review, donc exceptionnellement, hein, cette semaine, avec la sortie de Shadowland numéro 1.
Oui, Shadowland numéro 1, on l'a attendu celui-là.
De 5, hein, puisque c'est en 5 parties. Au scénario, on retrouve Andy Deagle, au dessin Billy Tan et à l'ancrage Bat. Un petit peu le même problème, le même syndrome que le X-Men, c'est-à-dire que avec tous les teasers qu'on a vus, là c'est pas à cause de la preview, c'est à cause de tous les teasers qu'on a vus, la révélation de cet épisode, vraiment la dernière page est totalement éventée.
Totalement, ouais.
On ne dira pas au cas où vous n'auriez pas vu les teasers, mais bon, voilà. Si vous les avez vus, désolé pour le spoiler, mais finalement, c'en est pas vraiment un.
Oui, voilà. Non, mais c'est ça, c'est le problème, c'est le syndrome film à gros budget où en fait on voit tout dans les extraits. avant de voir le film. Bah là c'est pareil, ce numéro 1 est vraiment cool, mais le problème c'est qu'on voit quasiment tout, on a déjà tout vu dans les teasers, donc il n'y a pas de grosse surprise au fait.
Bah, ce qu'on n'avait pas vu dans les teasers, en tout cas moi ce que je n'avais pas vu dans les teasers, c'est le nouveau costume de Daredevil. Je l'avais pas vu, qu'il avait un costume noir qui avait complètement changé. Et son costume, je le trouve super joli.
Bah, et ça fait penser un petit peu au costume de... Alors comment ça s'appelait ? Fall from...
Ouais, de l'ancienne époque, enfin Fall from Grace.
Ouais, Fall from Grace, ouais, ça doit être ça.
Mais légèrement, en fait, c'est tout simplement le même costume que qu'actuellement, donc le costume classique, rouge avec DD et crayon noir, mais inversé.
Oui.
Et le DD est légèrement plus stylisé, façon japonaise.
Voilà.
Donc, je trouve son costume super beau. Franchement...
Bah, il se transforme de plus en plus en une espèce de Batman, mais Batman ninja, quoi.
Ah, d'ailleurs, il y a une phrase dans le résumé, je sais pas si tu as lu la petite page de résumé.
Oui, je l'ai lu.
Alors, il y a une phrase à la fin que je trouve magnifique. Matt Murdock dared evil and
oui,
lost.
Oui, bah, t'as vu, ils nous écoutent et ils ont pris ton jeu de mots, en fait, puisque tu l'avais sorti, ça.
Ouais, c'est possible. En tout cas, j'ai trouvé cette phrase super jolie.
Oui.
Donc voilà, bon, ça c'est juste un point.
D'ailleurs, pour résumer, donc grosso modo l'intrigue, Daredevil est devenu le chef de la main depuis quelques épisodes. Et
ça l'a changé. Il devient beaucoup plus radical.
Il devient beaucoup plus radical puisque Bullseye a fait péter tout un bloc dans Hell's Kitchen.
Hell's Kitchen qui a changé de nom d'ailleurs, hein, qui maintenant
et
s'appelle
voilà,
Shadowland.
Qui est devenu donc Shadowland. Shadowland puisque Daredevil et la main ont décidé de protéger coûte que coûte...
Mais ils ont reconstruit, en fait, ils ont construit un espèce de bâtiment façon Japon médiéval sur les ruines de ce bâtiment qui a fait péter.
Excuse-moi Steve, mais ça j'ai trouvé un petit peu ridicule quand même. Parce que déjà, comment construire un truc pareil comme ça, quoi, j'allais dire. Enfin, tu vois, un jour, il y a des gens qui ont vu des ninjas en train de mettre les briques en place.
À savoir, c'est peut-être avec. Je sais pas. Moi, j'ai pas lu la série Daredevil depuis un moment.
Mais
je la suis en français, en fait. Donc,
vu la taille de l'édifice, c'est quand même assez marrant. Enfin, je sais pas. Ça fait bizarre, quoi.
Enfin, quand je dis je la suis en français, je la suis au rythme français. Donc, ouais. Donc voilà. C'est. Je sais pas. Est-ce que c'est de la magie, peut-être. Je sais pas, mais.
Peut-être. Ouais. Enfin, j'espère parce que l'âge.
Peut-être le problème, c'est qu'il est vraiment gigantesque et que...
Oui.
Voilà, au niveau des proportions.
Oui, c'est... Enfin bon.
D'ailleurs, pendant qu'on est sur les proportions et le dessin, les dessins de Bilitan, pas toujours très heureux.
Bah oui, voilà, c'est ça aussi. Les dessins de Bilitan sont pas géniaux, sont Iron Man et dégueulasse.
Ouais, la tête qu'il a donnée à Danny Rand, Iron Fist, franchement, affreux.
Oui.
Par contre, les personnages en costume, enfin généralement Daredevil ou Bullseye, etc., il les tient vachement bien, je trouve.
Bah pas ceux en armure parce que tu regardes Iron Man, il a une toute petite tête et un buste gigantesque en fait.
Ouais, mais enfin toute la scène de combat entre Bullseye et Daredevil, enfin même au niveau du visage qui ressort du masque de Bullseye ou Daredevil, enfin tout est plutôt pas mal. Après par contre, c'est vrai que les visages purs, c'est pas ça quoi.
Ouais.
Enfin bon, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est Bat? Parce que c'est Bat à l'ancrage, donc est-ce que c'est Bat qui a fait chier dans la colle ou est-ce que c'est Billy Tan qui a merdé au départ? Voilà, enfin il a plutôt chier dans l'encre en fait, je dirais.
Bon ben en tout cas enfin c'est pas mauvais non plus hein, c'est
ah
pas
non, moi
c'est
j'ai
pas
franchement aimé,
c'est pas
j'ai
du,
franchement aimé cet épisode. Non oui non ouais.
Voilà, loin de là mais bon c'est Billy Dan a déjà été meilleur quand même.
Ouais.
Donc au début ça commence sur l'évasion de Bullseye.
Oui.
Qui est quand même grandiose.
Par un stratagème qui est magnifique. Ouais.
Ouais. Donc oui comme on disait Bullseye qui a été arrêté donc par Daredevil suite à son Stamford quoi puisque c'est
ouais,
un petit peu le même thème quoi.
Ouais. Encore.
L'évasion est quand même...
Juste pour vite fait une petite parenthèse, ça commence à faire beaucoup de choses qui explosent. On a Stamford, on a la ville où il y a Hope qui est née, on a maintenant les explosions de vampires
c'est à chaque fois
San
la même
Francisco.
Histoire,
là, on a ça. Ça fait beaucoup
d'explosions. C'est la même histoire. Il se passe un truc qui choque les gens, une grosse catastrophe, et puis ensuite, on en fait un symbole, tu vois.
Mais c'est un peu en lien avec l'actualité.
C'est un petit peu le bal. Oui, c'est un petit peu le traumatisme du 11 septembre, quoi.
Exactement, c'est ce qui ressort énormément dans leur écriture.
Voilà. Donc l'évasion de Bullseye qui est gigantesque.
Ah ouais, magnifique. Magnifique scène.
Surtout le coup des menottes.
On retrouve un Diddy Gull proche de ce qu'il faisait dans The Losers, justement. Très action, très... C'est vraiment une scène qu'on verrait dans un film d'action, quoi.
Ouais, tout à fait. Et puis ensuite, bon, bah, il arrive à Shadowland, ex Hell's Kitchen, et on peut voir un panel avec plusieurs des personnages qu'on va suivre dans cette saga. Donc il y a Moon Knight, Spider-Man, il y a le Kingpin, donc ça pourrait être intéressant, mais il y a surtout le Punisher, qui, comme tu me le faisais remarquer tout à l'heure, est dans son costume classique.
Oui, et qui n'est pas en Frankencastle.
Alors, est-ce que Frankencastle rentre dans la continuité? Je ne crois
ça,
pas.
Ça, c'est étrange. J'y ai pensé juste avant l'enregistrement. D'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe sur le moment.
Oui, moi non plus.
Donc, voilà.
Moi non plus.
On a aussi un des passages qui, pour moi, est peut-être un des plus intéressants, puisque, hormis le gros passage de la fin, mais qu'on connaissait déjà, c'est la réaction des Avengers face à Shadowland et à la radicalisation de Daredevil. Même, on laisse faire jusqu'à ce que les choses reviennent un peu dans l'ordre, et une fois que les choses reviennent dans l'ordre, il va falloir qu'il se calme, sinon on lui botte le cul.
Oui, voilà, bon, Tony Stark, de toute façon, est fidèle à lui-même, c'est-à-dire que il se dit, on va le laisser faire, on va le laisser nettoyer toute la merde, et puis une fois qu'il aura terminé, fois qu'on aura estimé qu'il aura fait son boulot, on va le calmer tout de suite. Et, voilà.
D'ailleurs, pas que Tony Stark, hein, si tu regardes bien, Bucky Cap le suit vachement dans cette idée.
Oui, mais en même temps, Tony Stark, j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal d'ascendant, notamment sur Bucky, plus que sur Steve Rogers.
Steve Rogers, qu'on n'a pas vu d'ailleurs dans cet épisode.
Non, voilà.
Enfin,
donc, c'est une espèce de confrontation qui va s'organiser entre Daredevil et puis le reste de l'univers Marvel, semble-t-il. Hein.
Et puis on a quand même dans les Avengers, on a Danny Rand et Luke Cage qui s'inquiètent pour leur ami, quoi.
Oui, qui sont les amis.
Décident d'aller le voir. Et il y a une phrase qui m'a un petit peu choqué quand même, vis-à-vis de Daredevil, en tout cas de sa façon de faire. Quand ils sont venus lui proposer un coup de main pour essayer de calmer le jeu avec Bullseye, il leur a proposé de se rallier à la main.
Oui.
Et comme ils ont dit non, il leur a dit dégagez.
Non mais
il est vraiment devenu fou.
Il est vraiment devenu fou. Et alors justement, je n'ai pas lu les épisodes précédents d'Andy Deagle sur le titre Longgoing Daredevil. Mais alors justement,
moi ça m'a donné encore plus envie de les lire en tout cas.
Oui, ça me donne envie de les lire. Mais j'espère que ils ont abordé la question de l'identité civile. Et j'espère qu'on a bien vu le basculement vers la folie de Matt Murdock, parce que là. C'est ma principale complainte, au fait, par rapport à ce premier numéro de Shadowland. On ne voit pas du tout Matt Murdock, tu sais, sans le costume.
Oui, c'est sûr.
Et du coup, ça a un aspect un peu poussif, tu vois, genre, maintenant je suis devenu un gros méchant, je déteste le monde, et voilà, et je vous emmerde tous, et je fais mon Batman radical, enfin voilà. Donc, c'est un peu dommage, parce que comme on voit pas les réactions de Matt Murdock, enfin, on voit pas Matt Murdock sous le costume, et on voit surtout pas la réaction de ses amis, quoi. On voit pas Foggy, on voit pas tous ces gens-là. Ça donne un espèce d'aspect un petit peu totalement déshumanisé du personnage qui est, c'est un peu dommage, quoi. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il en est, vraiment.
Je pense qu'on saura ce qu'il en est dans la série Daredevil qui, elle, continue.
Voilà.
Et qui fait partie intégrante du crossover.
Tout à fait, tout à fait. Donc je pense que c'est justement pensé comme ça.
C'est peut-être volontaire, ouais, pour que les gens qui ne suivent pas forcément Daredevil et qui ont envie de prendre Shadowland pour voir ce qui va se passer, ne soient pas perdus avec des personnages qu'ils ne connaissent pas forcément ou dont ils se foutent totalement.
Oui.
En tout cas, ouais, une fin, on va dire moyennement surprenante vu qu'on connaissait déjà la fin.
Pas surprenant du tout pour qui ont vu les teasers, quoi, en fait.
Ouais. En même temps, un teaser, faut toujours se méfier. Est-ce réel? Est-ce un peu exagéré ou pas? En tout cas, les teasers qu'on a à la fin de cet épisode-là nous montrent que ce qui s'est passé est pour de bon, apparemment.
Oui. Oui, en tout cas, on sent que il a complètement pété les plombs et.
Moi, franchement, j'ai vraiment trouvé ça super bon. Vraiment très très bon.
Moi aussi, hein.
À part le fait de ce manque de surprise un petit peu dû à la communication un peu trop abusive de Marvel là-dessus.
Mm-hmm.
Mais là où je me pose des questions, c'est sur les répercussions. Alors, ils nous ont promis que ce serait la naissance du plus grand super-vilain de l'univers Marvel. Moi, ce que je me dis, c'est qu'après la lecture de ce premier épisode, le retour en arrière va être vraiment difficile. Donc, je pense qu'il va falloir qu'ils aillent jusqu'au bout et ça me fait un peu peur.
Oui, j'espère qu'ils vont pas nous sortir un truc du style c'était pas lui, ou il y avait une histoire comme ça, ou c'était un Skrull, ou c'était une connerie, enfin je sais pas.
Moi je crois que les Skrulls c'est fini là, excusez-moi.
Ouais, non, j'espère, tu sais maintenant avec Marvel, hein. Enfin voilà, mais en tout cas ça augure du meilleur, mais j'espère que ça va pas bousiller effectivement totalement le personnage pour autant.
Je sais pas, en même temps ça peut être intriguant, mais comme je le disais au moment où on parlait des teasers, une série avec un Daredevil méchant, je pense pas que ça se vende.
Alors par contre, ma seule crainte aussi c'est trop de tie-ins. Vraiment trop de tie-ins. Parce qu'à partir de septembre, ouais,
c'est vrai.
Alors bon, ils seront peut-être tous excellents, mais
ils seront peut-être surtout presque tous dispensables, oui. Comme souvent dans les crossovers.
Oui. Donc voilà. Enfin, en même temps, on va pas changer la manière de Marvel de faire.
Way,
la Marvel Way.
En tout cas, pour moi, c'est un bail, peut-être le bail de la semaine.
Oui, bah oui, clairement, hein. De toute façon, c'est un bail. Ce serait bête de passer à côté d'un truc pareil, surtout que ça a l'air très bon. Hein.
Ah oui, non, c'est vraiment très très bon.
Le seul regret, effectivement, c'est trop de spoilers.
Ouais, trop de spoilers.
Enfin, trop de teasers, quoi.
Ouais. Bah ouais, enfin, voilà. Ok, on va continuer les les reviews solo. J'ai vraiment du mal cette semaine. On va continuer les reviews solo.
Tu insistes, hein. Tu ouais. Veux vraiment qu'on fasse des doubles reviews.
Ma dernière review solo de cette semaine, c'est Scarlett numéro 1. Brian Bendis au scénario, Alex Maleev au dessin. Donc le nouveau creator owned de Brian Michael Bendis qui sort donc chez Icon, la branche creator owned de chez Marvel. Alors bon, Brian Bendis, on a l'habitude maintenant de le voir dans Marvel, ce qu'il fait dans le Marvel Universe classique. On connaît un petit peu ce qu'il fait en creator owned, notamment avec Powers. Et je me suis dit, pourquoi pas tester ça, on va voir. On a entendu parler, c'était quand même assez énigmatique encore. Bon. Je vois. Alors déjà, c'est honnêtement super bizarre, vraiment. Mmh. Ça se rapprocherait d'Alias, puisque on suit un personnage féminin.
Oui, et puis c'est aussi de toute façon une série qui lui est vraiment est propre, donc.
Voilà. Donc ça se rapproche d'Alias pour cette ambiance féminine, les dessins assez sombres de Maleev. Enfin, c'est un peu le même genre d'univers. Là, ça se passe à Portland, ville actuelle dans laquelle vit Bendis.
Donc, oui, voilà. J'allais dire Vichir à Bendis.
Ouais. Ouais, voilà, bah c'est là qu'il vit, donc c'est peut-être aussi plus facile pour mettre en scène et bien connaître les lieux. Et cette Scarlett, le problème, enfin c'est un problème en même temps c'est intrigant, c'est qu'elle passe son temps à casser le quatrième mur. Donc c'est-à-dire qu'elle s'adresse directement au lecteur et elle raconte toute sa vie au lecteur dans cet épisode.
Ouh là
c'est
là.
Un épisode qui est assez gros, qui fait une quarantaine de pages. Et en fait, elle passe son temps à parler au lecteur, elle raconte tout au lecteur. Alors, c'est assez bizarre, c'est pas forcément habituel chez Bendis, et ça donne vraiment un autre ton de ce qu'il a pu faire d'habitude, même s'il y a des similitudes, comme je disais, avec Alias. On a aussi quelques similitudes avec Powers, qu'on voit une page internet complète avec un article qu'on peut lire, etc. Bon, voilà, des petits trucs à la Bendis, mais je trouve quand même qu'il est assez éloigné de son style classique. De par ce cassage du quatrième mur.
Ouais.
Le truc, c'est que malgré tout, j'ai pas grand chose à en dire sans spoiler la fin, donc je vais éviter. C'est assez bizarre. Vraiment. C'est pas inintéressant, mais j'ai pas non plus été super, super accroché. Je pense que j'irai quand même voir le numéro 2 pour voir où ça va. Parce que comme je disais, elle casse le quatrième mur constamment, mais je me demande si elle casse bien le quatrième mur ou si elle parle pas à quelqu'un qu'on ne voit pas tout au long de l'épisode.
Ah d'accord, ouais, là ça serait intéressant.
Je sais pas. Je me pose la question, parce qu'avec Bendis, malgré tout, tout est possible. Donc est-ce que ce serait quelqu'un qui la filme parce qu'elle raconte par rapport à ce qu'elle va faire? Je sais pas. Par contre, il y a une chose qui m'a vraiment mais énervé.
Pourri
l'épisode. Ça m'a vraiment pourri l'épisode. C'est un petit détail, ça va peut-être vous faire rire, mais voilà. Elle a une coupe de cheveux assez garçonne, malgré tout, des cheveux, disons qu'assez courts, féminin quand même, mais assez courts, avec une mèche, enfin une assez grosse mèche, quoi, des cheveux un peu style coupe au bol, on va dire, pour faire vraiment basique. Le problème, c'est que elle a la mèche d'un côté sur une case, sur la case d'après, elle a la mèche avec l'arrêt de l'autre côté, et ainsi de suite, et à chaque case, ça change. Et je trouve que c'est peut-être un petit détail, mais vu le professionnalisme qu'a mis Maleev dans ses pages, les soins apportés au dessin, aux détails, etc., qu'il y ait ce problème de mèche, enfin, quiconque a des cheveux assez longs et peut faire une raie d'un côté ou de l'autre, sait très bien que la raie ne change pas de côté en 3 secondes. C'est impossible. Et ça, franchement, c'est vraiment
c'est
le petit détail.
La particularité, l'autre particularité de l'épisode, c'est ce changement de côté de la raie.
Ah mais franchement, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé parce que ça casse en fait ce côté pro qui est donné dans les dessins, quoi.
Bon, et on va voir si dans les reviews américaines notamment les gens parleront de ce détail.
Je pense pas, j'en sais rien. C'était parce que moi j'ai les cheveux longs et que j'ai l'habitude avec les cheveux, soit c'est d'un côté, soit c'est de l'autre. Mais enfin voilà, que ça change d'une case à l'autre, dans une scène de poursuite, d'un côté elle a la mèche d'un côté et elle court et hop, elle a la mèche de l'autre côté, la case d'après. Voilà, c'est pas normal.
Peut-être que Bendis essaye de faire passer un message, je sais pas.
Ouais. Non mais ça fait rigoler, c'est sûr, mais voilà. Moi, ça m'a fait chier, quoi. Donc si vous arrivez à dépasser ça, tant mieux.
Donc,
vous
rien que pour ça.
Vous aimerez peut-être encore un peu plus. Non, non, non. Je dirais que c'est un check-it. Parce que je sais pas quoi penser de cet épisode. Il peut y avoir quelque chose de bien, comme ça peut s'écrouler totalement. Donc, j'irai voir le deuxième et espérons que je puisse juger un peu plus. En tout cas, c'est intriguant. C'est déjà pas mal. Même si, voilà, le fait de pas savoir quoi penser, c'est un peu chiant.
Oui.
Voilà. Bien, donc, pour moi, un check-it.
Ok.
Voilà. On passe à la dernière review solo et c'est donc toi qui t'en charge avec.
Le Avengers The Children's Crusade, c'est le numéro 1 sur 9.
Voilà, t'as réussi à le prononcer. Parce
que... Ouais, t'as vu, hein, concentration et tout. J'espère que, voilà, c'est bon, c'est enregistré. Donc, Alan Enberg au scénario et Jim Chung au dessin. Donc, on retrouve, au fait, la team qui avait bossé sur Young Avengers il y a de cela longtemps. Puisqu'entre-temps, il y a eu plusieurs mini-séries Young Avengers... plus ou moins réussi, on va dire, qui bon était pas ce qu'il y avait de plus passionnant non plus, alors que c'est vraiment une superbe équipe, et pour moi c'est d'ailleurs, je le dis maintenant, peut-être bien la meilleure série Avengers de ces dernières années quand même. Donc bon.
Ah ouais, quand même, à ce point-là.
Ah, j'ai adoré le premier run, qui était en 12 numéros simplement. Donc jetez-vous sur les trade paperback pour ceux qui connaissent pas l'équipe et qui n'ont pas lu le run d'Alan Enberg et de Jim Chung.
Je plaide coupable. C'est des personnages qui m'intéressent pas du tout. Donc,
Ah, c'était vraiment excellent. Je pense que si tu avais lu, de toute façon, ces épisodes-là, tu serais fan de cette équipe.
Peut-être qu'un jour, ouais, j'essaierai quand même.
Parce que c'est vraiment super sympa.
Ce sera la première fois que tu me le conseilles, donc il va falloir que j'essaye quand même.
Ouais. Très franchement, il faut. Donc, on retrouve Stature, hein, la fille de l'homme fourmi qui est décédée, Cassie Lang, hein, donc, Vision, Patriot, donc le petit-fils du Captain America Black, Hawkeye, qui est une version féminine de Hawkeye, et surtout Speed et Wiccan, qui sont au fait, je le rappelle, puisqu'on l'apprenait lors du premier run de Young Avengers, et c'est super important dans l'épisode, au fait, ils sont les deux fils, comment dire, spirituels, j'ai envie de dire, de Wanda.
Imaginaire, ouais.
Ouais, imaginaire, oui. Donc, Speed qui ressemble...
Wanda, la sorcière rouge, hein, pour ceux qui...
Oui, la sorcière rouge. Speed qui ressemble à s'y méprendre à une version de Kid Flash.
Bah ouais, moi j'aurais dit Quicksilver, en fait.
Pour rester dans l'univers Marvel. Oui, pour rester dans l'univers Marvel. Quicksilver, puisque ouais.
C'est son oncle, finalement.
Oui, Quicksilver, c'est le frère de la sorcière rouge, petite piqûre de rappel. Et ouais, non, enfin moi je me fais penser un petit peu à un Kid Flash avec les lunettes et tout, quoi.
Ouais, Impulse, ouais.
Et bon bah alors bref, donc on retrouve cette équipe-là.
Wiccan qui est magicien comme sa mère.
Exactement, ouais.
Voilà.
Qui est magicien. Et Hulkling d'ailleurs, faut pas l'oublier celui-là, qui est une espèce de Skrull. Enfin voilà. Donc les Young Avengers affrontent des ennemis lambda, jusqu'à ce que il se passe quelque chose de pas normal, à savoir Wiccan qui en fait ses pouvoirs déconnent, ou semblent déconner, et il manque pratiquement de les tuer tous. Arrive à ce moment-là.
Quand ça déconne pas gentiment, quoi.
Ah oui, non. Là, c'est vraiment un truc qui inquiète justement les New Avengers, enfin Iron Man, Captain America et compagnie, qui arrivent à ce moment-là et qui assistent à cette scène et qui sont assez stupéfaits par ce qu'ils voient. Où, au fait, Tony Stark décide d'expliquer aux Young Avengers un petit peu tout ce qui s'était passé avec la Scarlet Witch, House of M, etc., etc.
Parce qu'ils étaient pas au courant de tout ça.
Si, mais au fait, là, c'est surtout pour les lecteurs.
D'accord.
Parce que ça fait quand même des années qu'on se demande ce que Scarlet Witch est devenue. Et là, enfin, on va savoir ce qu'elle est devenue normalement. Où est-ce qu'elle est passée? Est-ce qu'elle a disparu? Enfin, voilà. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc là, c'est histoire de tout nous remettre en tête. Et au fait, le truc, c'est que les Young Avengers sentent bien que Wiccan est un petit peu mis sous observation par les autres Vengeurs, quoi. Il y a Captain America qui rend visite à Wiccan pour lui faire un petit peu la leçon sur le pouvoir, les responsabilités, etc. Et au fait, les Young Avengers interceptent cet entretien, enfin interrompent cet entretien, c'est ce que je veux dire. Et on sent que ça va être un petit peu la rébellion, mais un petit peu la crise d'adolescence des Young Avengers qui veulent vraiment, au fait, devenir indépendants et rester une équipe soudée et voilà quoi. Et là on sent que le problème, c'est que les Vengeurs pensent que Wiccan pourrait déraper comme Scarlet Witch, donc voilà, donc il y a toute cette intrigue qui se met en place progressivement. Et surtout, bah en fait, l'épisode se termine sur la décision des Young Avengers de partir à la recherche de Scarlet Witch. Et arrive à la fin, au fait, un personnage essentiel qui rencontre enfin les Young Avengers. Et au fait, on se dit même que ça faisait longtemps que, bah en fait, ils auraient dû rencontrer ce personnage-là. Alors, je vais pas dire qui c'est. Mais voilà, donc c'est les choses se mettent en place et c'est toujours aussi sympa que bah, le premier run de cette équipe, quoi, de Enberg et Chung. Donc bah voilà, donc c'est cool de les revoir, c'est parti pour 9 numéros. Et franchement, c'est super plaisant.
Donc d'accord, donc c'est un bail pour toi.
Oui, pour moi c'est un bail, ouais, c'est un bail. C'est un bail. Et puis voilà, bon, en fait, ça va enfin répondre à une question qu'on se pose depuis très très longtemps. Le dernier point aussi que enfin je pense pas que ça se fera, mais ce serait pas mal de voir un crossover Young Avengers Avengers Academy, parce qu'il y a quand même un point en commun entre ces deux séries que je vais pas révéler puisqu'il y a peut-être des gens qui ont pas encore lu Avengers Academy, mais en tout cas ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, donc pour moi c'est clairement un bail.
D'accord. Bon. Moi je suis toujours pas forcément intéressé par l'équipe, en fait. C'est l'équipe, les personnages en eux-mêmes, j'accroche pas, quoi. Mais,
Ils ont tous des origines quand même assez sympas et vraiment bien construites et intéressantes, quoi. Mais faut vraiment avoir lu le premier run, je pense, pour s'attacher à cette équipe.
Ce qui me fait peur, c'est qu'on n'apprenne pas réellement où est la sorcière rouge et qu'il la trouve pas, et voilà.
Oh, je pense que si, vu le dernier personnage, la fin de l'histoire, je pense qu'on va savoir ce qui s'est passé.
Moi, disons que ce qui m'étonne, c'est que ce soit quelqu'un comme Alan Heinberg qui le révèle et pas quelqu'un comme Brian Bendis. Voilà. Donc c'est pour ça que ça me paraît un peu douteux qu'on ait la véritable réponse.
Ouais, enfin, on verra. Sans doute qu'on lui a laissé le champ libre pour ça.
Peut-être.
Ouais. Parce que Brian Bendis, ça fait longtemps qu'il aurait pu donner la réponse et. Je sais pas s'il a peut-être décidé de déléguer ça à quelqu'un d'autre. Enfin voilà, il a peut-être plus rien à dire là-dessus. Donc,
C'est aussi possible, hein, mais disons que ça me paraît être une assez grosse révélation. Trop grosse en tout cas pour quelqu'un comme Heinberg, quoi. Mais je peux me tromper, hein, bien sûr. Je préférerais, bon, en tout cas, comme ça au moins on aurait la réponse.
En tout cas, voilà, vraiment, vraiment très très plaisant et je lirai la suite, quoi, quand même.
Ok. Bon bah c'est la fin de cette émission, la 8e d'ailleurs. Je sais pas si on l'avait précisé au début que c'était la 8e.
Je sais plus, alors, je me rappelle plus.
On se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine pour la fournée de la semaine prochaine des comics. Vous pouvez retrouver les podcasts sur le site, comme sur iTunes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et sur Twitter, comme toujours. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, nous dire ce que vous avez pensé, vous aussi, de ces numéros, ou même d'autres numéros que nous n'avons pas abordés cette semaine. Voilà. Je crois que là, on a fait le tour. Hein.
Tout à fait, ouais.
Très bien, donc à la semaine prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.
Ciao !